Amis, frères et sœurs en Christ, cet enseignement est très important, car Dieu, par Jésus-Christ, demande à ses serviteurs à travailler par leurs propres mains. Mais la majorité des serviteurs, qui se disent hommes de Dieu, ne veulent pas travailler par leurs propres mains pour se prendre en charge. Alors ils imposent aux enfants de Dieu de leur verser les offrandes et les dîmes, sous prétexte que c'est pour Dieu. Attention, mensonge. Dieu n'a pas besoin de votre argent. Il vous demande d'aider ceux qui sont autour de vous, qui sont dans le besoin, comme les veuves, les orphelins, les indigents, les pauvres. On trouve cela dans Matthieu 25, versets 35 à 40, que nous verrons ensemble dans cet enseignement. Beaucoup de dirigeants de différentes églises sont devenus des PDG, des maîtres, et les enfants de Dieu des esclaves. Comme à l'époque de Pharaon, les Israélites doivent travailler pour apporter des briques pour la construction des palais de Pharaon. Vous découvrirez la vérité dans cet enseignement qui devrait ouvrir les yeux des enfants de Dieu. Donc, ensemble, essayons d'approfondir ce que dit les Écritures saintes à ce sujet, dont le titre est « Travailler, encore travailler, toujours travailler ». 2 Thessaloniciens 3, verset 8, nous dit « Nous n'avons mangé gratuitement le pain de personne, mais, dans le travail et dans la peine, nous avons été nuit et jour à l'œuvre, pour n'être à charge à aucun de vous. » Dans le travail et dans la peine, quel travail parle Paul, le serviteur de Jésus-Christ? Pour comprendre de quel travail parle Paul, il faut saisir la première et la deuxième phrase de ce passage. Nous n'avons mangé gratuitement le pain de personne. Et la dernière, pour n'être à charge à aucun de vous. Paul ne parle pas de la prédication ni de l'évangélisation. Il parle du travail de ses mains pour se prendre en charge, c'est-à-dire subvenir à ses besoins quotidiens, comme payer son loyer, payer ses impôts en tant que citoyen, pour se conformer à la loi du pays, pour se nourrir. Si ce croyant a une femme et des enfants, il doit s'occuper de sa famille, les habiller, en clair, pour vivre sans être à la charge de personne. Acte 18, versets 1 à 3. Après cela, Paul partit d'Athènes et se rendit à Corinthe. Il y trouva un juif nommé Aquilas, originaire du Pont, récemment arrivé d'Italie avec sa femme Priscille, parce que Claude avait ordonné à tous les juifs de sortir de Rome. Il se lia avec eux, et, comme il avait le même métier, il demeura chez eux et y travailla. Ils étaient faiseurs de tentes. À chaque fois que Paul arrivait dans un pays ou une ville, Paul cherchait d'abord le travail. Ici, il s'agit de rester longtemps dans cette ville ou pays. C'était la première préoccupation de l'apôtre Paul, le serviteur de Jésus-Christ. Pierre, l'apôtre, n'a pas échappé à cette recommandation pour payer ses impôts. Prenons Matthieu 17, 27. Mais pour ne pas les scandaliser, va à la mer, jette l'hameçon. Et tire le premier poisson qui viendra. Ouvre-lui la bouche, et tu trouveras un statère. Prends-le, et donne-le-leur pour moi et pour toi. Il était pêcheur. C'est la pêche qui lui procurait un revenu. Jésus ne lui a pas demandé d'aller faire la quête aux croyants, de lui donner l'argent pour aller payer ses impôts et ceux de Jésus. Pierre devait travailler par ses propres mains, aller pêcher. Acte 20, 34. Vous savez vous-même que ces mains ont pourvu à mes besoins et à ceux des personnes qui étaient avec moi. Frères, amis, sœurs en Christ, le serviteur de Jésus n'est pas exonéré du travail. Il doit vivre comme tout le monde. Si tu as été appelé en tant que maçon, en tant qu'ouvrier quelque part, en tant qu'informaticien, comptable, mécanicien ou autre, continue à exercer ton métier qui est une source de revenus pour toi. Cela n'empêche pas de prêcher Jésus-Christ autour de toi. 1 Corinthiens 7, 24. Que chacun, frère, demeure devant Dieu dans l'état où il était lorsqu'il a été appelé. Dieu lui-même nous donne cet exemple dès le commencement. Dieu est travailleur, un grand ouvrier. Il a utilisé ses propres mains pour créer. Regardons Genèse 2, verset 7. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint un être vivant. En travaillant ainsi, cela évitera à un croyant chrétien de tendre la main, vivre dans la mendicité. Ce que font la majorité des serviteurs, nous le voyons, ils sont devenus des mendiants en utilisant le nom de Dieu. Comme si Dieu avait besoin de quelque chose, alors que c'est lui qui donne tout. Regardons Actes, chapitre 17, verset 25. Il n'est point servi par des mains humaines, comme s'il avait besoin de quoi que ce soit, lui qui donne à tous la vie, la respiration et toute chose. Voici ce que dit le Seigneur en s'adressant à ses disciples au moment où il était sur la terre. Ce message est encore d'actualité aujourd'hui pour tout serviteur appelé. Luc 22, versets 35 à 36. Il leur dit encore, « Quand je vous ai envoyé sans bourse, sans sac et sans souliers, avez-vous manqué de quelque chose ?» Ils répondirent, « De rien. » Et il leur dit, « Maintenant, au contraire, que celui qui a une bourse la prenne, et que celui qui a un sac le prenne également, que celui qui n'a point d'épée vende son vêtement et achète une épée. » Amis, frères et sœurs en Christ, il y a un temps pour toute chose. Il y a un temps pour travailler, un temps pour enseigner, un temps pour s'occuper de sa maison, c'est-à-dire sa famille. Tout cela traduit ce passage qui dit « Priez sans cesse », nous dit 1 Thessaloniciens 5, 17. Car prier sans cesse, ce n'est pas de parler, mais de vivre la parole de Dieu qui nous dit « Il faut travailler ». Il faut témoigner Jésus-Christ. Il faut s'occuper de sa famille, les aimer. Si quelqu'un n'aime pas travailler, sous le prétexte qu'il annonce l'Évangile, en trompant les gens, en exigeant l'argent pour Dieu, il n'y a pas d'autre mot, cet homme est un voleur. Il n'accomplit pas la loi de Jésus-Christ. Il vit dans le péché. Il a cassé une ordonnance de la loi. Jacques 2. Verset 10. Car quiconque observe toute la loi, mais pèche contre un seul commandement, devient coupable de tous. Aujourd'hui, le passage du livre de Malachie est devenu une référence que tous les chefs des différentes dénominations chrétiennes brandissent devant les croyants chrétiens pour leur soutirer de l'argent. C'est une escroquerie. Cela ne vient pas de Dieu. Rappelez-vous, ces ordonnances ont été établies par le médiateur Moïse, du sacerdoce lévitique, c'est-à-dire dans l'ancienne alliance entre Dieu et le peuple d'Israël. Mais depuis, l'alliance a changé. Le sacerdoce aussi a changé. Le médiateur a changé. Le croyant chrétien n'est pas baptisé en Moïse, le médiateur de l'ancienne alliance. Il est baptisé au nom du nouveau médiateur entre Dieu et l'homme. Dans l'ancienne alliance, les Israélites ont été baptisés en Moïse. 1 Corinthiens 10, versets 1 à 3. Frères, je ne veux pas que vous ignoriez que nos pères ont été tous sous la nuée, qu'ils ont tous passé au travers de la mer, qu'ils ont tous été baptisés en Moïse, dans la nuée et dans la mer. Qu'ils ont tous mangé le même aliment spirituel. Le croyant chrétien est baptisé en Jésus-Christ, le nouveau médiateur. Acte 2, verset 38. Pierre leur dit « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. » Romains 6, verset 3 « Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés ?» Le croyant chrétien doit savoir que l'alliance a changé, le sacerdoce aussi a changé. De même, la loi et les ordonnances ont aussi changé. Pourquoi ? C'est parce que le médiateur qui établit la loi et les ordonnances a changé. Hébreux 7, 12. Car le sacerdoce étant changé, nécessairement aussi il y a un changement de loi. Hébreux 8, verset 6. Mais maintenant, il a obtenu un ministère d'autant supérieur qu'il est le médiateur d'une alliance plus excellente, qui a été établie sur de meilleures promesses. 1 Timothée 2, verset 5. Car il y a un seul Dieu, et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ homme. Galates 3, versets 23 à 27. Avant que la foi vînt, nous étions enfermés sous la garde de la loi, en vue de la foi qui devait être révélée. Ainsi, la loi a été comme un pédagogue pour nous conduire à Christ, afin que nous fussions justifiés par la foi. La foi étant venue, nous ne sommes plus sous ce pédagogue, car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Dans l'ancienne alliance, les Lévites n'avaient pas le droit de travailler. Ils avaient comme mission de veiller sur le temple, qui était un temple de briques. Ils étaient nourris par les offrandes et les dîmes versées par le peuple d'Israël. C'était cela leur revenu. Et c'est bien Dieu qui a ordonné cela. Mais le même Dieu a aussi ordonné le changement de toutes ces choses. Jérémie 31, 32. Non, comme l'alliance que je traitais avec leur père, le jour où je les saisis par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte, alliance qu'ils ont violée, quoique je fusse leur maître, dit l'Éternel. Hébreux 8, versets 7 à 9. En effet, si la première alliance avait été sans défaut, il n'aurait pas été question de la remplacer par une seconde. Car c'est avec l'expression d'un blâme que le Seigneur dit à Israël « Voici, les jours viennent, dit le Seigneur, où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle. Non, comme l'alliance que je traitais avec leur père, le jour où je les saisis par la main, pour les faire sortir du pays d'Égypte, car ils n'ont pas persévéré dans mon alliance. Et moi aussi, je ne me suis pas soucié d'eux, dit le Seigneur. » Et dans le verset 13, en disant « une alliance nouvelle », il a déclaré la première ancienne, « Or, ce qui est ancien, ce qui a vieilli, est prêt de disparaître. » Pourquoi ce changement ? Parce qu'il y a un homme qui a payé cette dette qui condamnait l'homme. Et cet homme a détruit cette ordonnance de l'offrande et dîme qui condamnait et pesait sur l'homme. Colossiens 2, versets 14 et 15. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Et il l'a détruit en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Personne ne peut plus nous parler des interdits du genre « ne pas manger ceci, ne fais pas cela, ne bois pas ça, ah, c'est le jour du Seigneur, non !» Colossiens 2, 16. Que personne donc ne vous juge au sujet du manger ou du boire, ou au sujet d'une fête, d'une nouvelle lune ou des sabbats. La seule loi, c'est celle de Jésus-Christ. Matthieu 22, versets 36 à 39. Maître, quel est le plus grand commandement de la loi ? Jésus lui répondit : Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier, le plus grand commandement. Et voici le second, qui lui est semblable : Tu aimeras ton prochain comme toi-même. La seule recommandation est celle ordonnée à cette femme. Prenons Jean 8, verset 11. Elle répondit : Non, Seigneur. Et Jésus lui dit : Je ne te condamne pas non plus. Va et ne pêche plus. Ne pêche pas. Jean 15, 12. C'est ici mon commandement. Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimés. Donner à Dieu, c'est accomplir son commandement. Et là, nous allons voir ce que dit Matthieu 25, versets 35 à 40. Car j'ai eu faim, et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif, et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger, et vous m'avez recueilli. J'étais nu, et vous m'avez vêtu. J'étais malade, et vous m'avez visité. J'étais en prison, et vous êtes venu vers moi. Les justes lui répondront : Seigneur, quand t'avons-nous vu avoir faim, et t'avons-nous donné à manger ? Ou avoir soif, et t'avons-nous donné à boire ? Quand t'avons-nous vu étranger, et t'avons-nous recueilli, ou nu, et t'avons-nous vêtu ? Quand t'avons-nous vu malade, ou en prison, et sommes-nous allés vers toi ? Et le roi leur répondra : Je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez faites. C'est cela l'amour du prochain. C'est cela la loi royale. Jacques 2, 8. Si vous accomplissez la loi royale, selon l'Écriture, tu aimeras ton prochain comme toi-même, vous faites bien. Les Écritures saintes ne se contredisent jamais. 1 Jean 4, versets 20 et 21. Si quelqu'un dit « J'aime Dieu » et qu'il haïsse son frère, c'est un menteur. Car celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas ? Et nous avons de lui ce commandement, que celui qui aime Dieu aime aussi son frère. Nous allons voir ce qui est réservé à ceux qui ordonnent et exigent l'application de ces ordonnances périmées. Prenons Matthieu, chapitre 23, verset 14. Malheur à vous, scribes et pharisiens, hypocrites, parce que vous dévorez les maisons des veuves et que vous faites, pour l'apparence, de longues prières. À cause de cela, vous serez jugés plus sévèrement. Allez tous au boulot, comme tout le monde. Par nos revenus, soutenons ceux qui n'ont pas la force de travailler, les vieillards, les veuves, les enfants orphelins. Et surtout, éloignons-nous du mal. Il n'y a pas plusieurs religions. C'est cela la vraie religion agréable aux yeux de Dieu. Jacques 1, 27. La religion pure et sans tache devant Dieu notre Père consiste à visiter les orphelins et les veuves dans leur affliction et à se préserver des souillures du monde. Job 28, 28. Puis il dit à l'homme : Voici, la crainte du Seigneur, c'est la sagesse. S'éloigner du mal, c'est l'intelligence. Acte 20, versets 33 à 35. Je n'ai désiré ni l'argent, ni l'or, ni les vêtements de personne. Vous savez vous-même que ces mains ont pourvu à mes besoins et à ceux des personnes qui étaient avec moi. Je vous ai montré de toute manière que c'est en travaillant ainsi qu'il faut soutenir les faibles et se rappeler les paroles du Seigneur qui a dit lui-même : Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. 2 Corinthiens 8, 15. Selon qu'il est écrit : Celui qui avait ramassé beaucoup n'avait rien de trop. Et celui qui avait ramassé peu n'en manquait pas. Autour de nous tous, Nous avons des frères et des sœurs qui sont réellement dans le besoin. Assistons-les et soutenons-les. Mémorisez Jacques 1, 27. La religion pure et sans tache devant Dieu notre Père consiste à visiter les orphelins et les veuves dans leur affliction et à se préserver des souillures du monde. Celui qui ne veut pas travailler, sous prétexte qu'il est serviteur, il faut s'éloigner de lui, mais ne le méprise pas. 2 Thessaloniciens 3, versets 6 à 15. Nous vous recommandons, frères, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, de vous éloigner de tout frère qui vit dans le désordre, et non selon les instructions que vous avez reçues de nous. Vous savez vous-même comment il faut nous imiter, car nous n'avons pas vécu parmi vous dans le désordre. Nous n'avons mangé gratuitement le pain de personne, mais dans le travail et dans la peine, nous avons été nuit et jour à l'œuvre, pour n'être à charge à aucun de vous. Ce n'est pas que nous en eussions le droit, mais nous avons voulu vous donner en nous-mêmes un modèle à imiter. Car lorsque nous étions chez vous, nous vous disions expressément, « Si quelqu'un ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas non plus. » Nous apprenons, cependant, qu'il y en a parmi vous quelques-uns qui vivent dans le désordre, qui ne travaillent pas, mais qui s'occupent de futilité. Nous invitons ces gens-là, et nous les exhortons par le Seigneur Jésus-Christ, à manger leur propre pain, en travaillant paisiblement. Pour vous, frères, ne vous lassez pas de faire le bien. Et si quelqu'un n'obéit pas à ce que nous disons par cette lettre, notez-le et n'ayez point de communication avec lui, afin qu'il éprouve de la honte. Ne le regardez pas comme un ennemi, mais avertissez-le comme un frère. Voilà la vérité, amis, frères et sœurs. Car Dieu étant lui-même le premier ouvrier, il bénira le travail fait par les mains de ses enfants. C'est pour cela, en tant que croyants et serviteurs, nous sommes ouvriers avec Dieu. Prenons 1 Corinthiens 3, verset 9. Car nous sommes ouvriers avec Dieu, vous êtes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu. Deutéronome 2, verset 7. Car l'Éternel, ton Dieu, t'a béni dans tout le travail de tes mains. Il a connu ta marche dans ce grand désert. Voilà 40 années que l'Éternel, ton Dieu, est avec toi. Tu n'as manqué de rien. Proverbe 14, 23. Tout travail procure l'abondance, mais les paroles en l'air ne mènent qu'à la disette. Le matin, quand tu te réveilles, rends grâce à Dieu. Une prière verbale de remerciement pour le renouvellement du souffle de vie et la protection de Dieu. Le combat qu'il a mené pour que tu sois en bonne santé. Cette santé, c'est pour aller travailler. Alors, debout et au travail. Le comportement et la conduite de toute une journée doit être une prière corporelle. Un témoignage par les actes. Les gestes qui expriment la nature de Dieu saint et parfait. 1 Pierre 1, versets 15 et 16. Mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite, selon qu'il est écrit, vous serez saints car je suis saint. Matthieu 5, verset 48. Soyez donc parfaits, comme votre Père céleste est parfait. En travaillant, tu annonces aussi Jésus-Christ, non seulement par la bouche aux collègues, mais aussi par ton comportement. Tu dois savoir qu'autour de toi, au travail, dans ton voisinage, dans la famille, les amis, beaucoup ne connaissent pas le Seigneur. Il n'y a pas un endroit précis pour annoncer la bonne nouvelle. Car toi, croyant chrétien, tu portes en toi partout le Christ, car tu es son corps. Jean 14, versets 8 à 10. Philippe lui dit, « Seigneur, montre-nous le Père, et cela nous suffit. » Jésus lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne m'as pas connu ?
Philippe, celui qui m'a vu a vu le Père.
Comment, dis-tu ? Montre-nous le Père.
Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi ? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même.
Et le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres.
1 Corinthiens 6, versets 19-20.
Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu, et que vous ne vous appartenez point à vous-même ? Car vous avez été racheté à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu.
Maintenant, amis, frères et sœurs en Christ, vous ne direz pas que vous ne connaissiez pas. Vous connaissez cette vérité. Il vous reste qu'à mettre en pratique cette recommandation en travaillant paisiblement, sans tendre la main. Personne n'est exonéré. Il n'y a pas des lévites. Que le Seigneur vous sanctifie par cet enseignement que vous venez d'entendre. Sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité, nous dit Jean 17, 17. Voilà pour cet enseignement, frères et sœurs, amis en Christ. Nous sommes plus sous l'esclavage. Appliquons dès maintenant la loi royale, afin d'être connus de Dieu en Jésus-Christ. Partagez aussi ce que vous avez reçu par cet enseignement. C'est retirer la poutre et la paille de nos yeux. Gloire à Dieu.